Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour commenter l'actualité, on va parler du coronavirus, évidemment, enfin surtout des 3 ans d'Emmanuel Macron, le nouveau monde. Rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Emmanuel Macron à la rescousse de la culture qui se fait pulvériser ce matin par Frédéric Mitterrand et par d'autres personnalités du monde de la culture. Et puis, faudra-t-il travailler plus pour relancer l'économie? On en parle avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Vous m'entendez?
Romain Collat,
secrétaire national du Parti Socialiste et maire de Boussy-Saint-Antoine dans le 91. Bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Vous êtes un peu flou sur mon écran, mais je pense que ça devrait s'arranger. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Judith.
Bonjour
et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour à toutes et à tous. Petit tour de table pour voir ce qui vous a retenu votre attention. Commençons avec Frédéric, un coup de cœur culturel comme souvent.
Oui, c'est vrai que j'aime bien quitter les rivages toujours agités de l'actualité politique. C'est un coup de cœur pour Renaud Capuçon, pour les deux frères Capuçon. Oui. On savait depuis le début du confinement que Renaud Capuçon joue un morceau consolateur, un morceau de violon. Gauthier Capuçon fait la même chose avec son violoncelle. C'est vrai que on a besoin, dans ce contexte d'inquiétude intense, dans tous les baromètres que l'on fait avec Sud Radio, on a eu une inquiétude jamais vue sur le plan économique, sur le plan sanitaire, et ces dérivatifs font du bien. Ce qui me frappe, c'est le lieu inédit. La musique, c'est le lieu où on écoute en liberté, dans une grande salle, en plein air. Là, c'est dans des lieux confinés. Et puis, voilà, c'était pour marquer le coup pour le 50e jour. Les deux frères Capuçon qui jouent très rarement ensemble, contrairement à ce qu'on peut croire, une à deux fois par an, là, se sont réunis pour jouer un morceau adapté de l'œuvre de Handel. Voilà, c'était mon coup de cœur.
Pour les mélomanes, effectivement, et c'est sur Instagram. On passe à Judith, qui a un coup de gueule.
Oui, alors mon coup de gueule vient de changer de nature, puisque secrétaire d'État au transport a finalement repris l'idée de Valérie Pécresse d'imposer une attestation de l'employeur pour pouvoir prendre les transports en commun. Ça vient de tomber, on vient de l'apprendre dans votre journal. Ouais. Donc Valérie Pécresse a gagné le concours Lépine de l'infantilisation et du flicage des Français. Félicitations à elle. Je ne vois pas bien comment cette mesure va pouvoir être appliquée concrètement, parce que les pauvres agents de la RATP et autres ont déjà beaucoup de boulot à faire en cette période de pré-déconfinement. En plus, c'est une fois de plus ne pas compter du tout sur le sens de la responsabilité des Français. C'est plutôt compter sur parier sur leur irresponsabilité d'office. On sait que la France est le pays d'Europe où le taux d'activité a été le plus faible, alors même que l'Espagne, par exemple, avait des mesures de confinement aussi dures que chez nous. Donc, ça continue.
Oui, une réaction peut-être les uns les autres sur cette attestation donc qui sera obligatoire. Alors peut-être qu'il y aura de nouveaux anges gardiens qui seront là pour verbaliser. Je ne sais pas, il y a... Oui, Romain Collat, c'est vous qui vouliez intervenir?
Pas spécialement, c'est pas ma voix, en tout cas, vous avez entendu,
oui,
mais
moi.
Je veux bien réagir.
Alors, c'est Nicolas, oui, bon, alors.
C'est Frédéric, je suis pas avec l'image, d'où votre petite confusion. Non, c'était pour réagir à ce qu'a dit Judith. Effectivement, dans toutes nos enquêtes, les Français ne supportent plus un discours infantilisant, moralisateur, d'autant plus que il n'est pas jugé à la hauteur d'un État qui est perçu comme déficient sur toute une série d'aspects de la gestion au jour le jour du coronavirus. C'était notre balise Sud Radio, CNews de ce matin, Valérie, où 80% des Français considèrent que le gouvernement a caché certaines informations. Dans ce contexte de défiance très forte, le discours déresponsabilisant, moralisateur, passe extrêmement mal.
On parlera peut-être d'Emmanuel Macron hier avec sur cette intervention pour le moins étonnante face au monde de la culture qui pour certains a été jugée également infantilisante en disant il faut un été apprenant. Donc on y reviendra. Pardon, Nicolas Corato.
Oui, je voulais juste réagir en disant qu'on résout les crises, et on le sait, grâce à la confiance. Et s'il faut une confiance partagée, la confiance des citoyens vis-à-vis de ceux qui les dirigent, Et puis surtout, la confiance des dirigeants vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire qu'on attend un peu des signes. Alors Emmanuel Macron a essayé l'autre jour sur TF1, mais des signes clairs de confiance qui soient donnés aux Français. Les Français ne sont pas responsables de cette crise sanitaire. Ils l'ont plutôt bien gérée de manière individuelle et collective. Ils en attendent autant de leurs dirigeants. Et si on veut qu'ils retrouvent une confiance envers leurs dirigeants, il faut que leurs dirigeants arrêtent de les infantiliser et de leur parler comme à des sous-citoyens.
Oui, Romain Colas, sur, sur ces attestations.
Je partage totalement ce qui vient d'être dit sur le fond de sauce de la culpabilisation et de l'infantilisation. Et d'ailleurs, vous parliez de cette attestation transport, mais on pourrait évoquer aussi la situation des parcs et jardins dans les comme des plages d'ailleurs, mais parcs et jardins dans les secteurs urbains comme les nôtres. Alors même qu'on va déconfiner, la meilleure façon que les gens s'entassent dans les cours d'immeubles, c'est de précisément pas ouvrir les parcs et jardins, alors qu'on a des lieux dans nos villes où ils pourraient profiter un peu de l'extérieur parce qu'ils en ont besoin, notamment ceux qui sont entassés dans des apparts depuis 2 mois. Sans être les uns sur les autres. Sur le sujet particulier de l'attestation transport, moi je serais un peu plus indulgent que Judith sur la préoccupation de Valérie Pécresse, que je partage et qui est partagée par beaucoup d'élus en Ile-de-France. Alors je ne sais pas si c'est la bonne méthode de l'attestation, surtout si le gouvernement annonce le jeudi, demain c'est férié, je ne sais pas bien comment les salariés vont pouvoir se débrouiller pour obtenir de leurs employeurs qui ont vraisemblablement un peu autre chose à faire que de distribuer des attestations. Mais il va y avoir un sujet, et je peux peut-être enchaîner si vous acceptez.
Oui, absolument, ça concerne également les transports, sur votre coup de gueule.
Il va y avoir un énorme sujet sur les transports publics en Ile-de-France, mais ce sera le cas aussi dans des grandes métropoles de région à partir de lundi prochain, pour la simple et bonne raison qu'on n'aura qu'une petite partie de l'offre de transport qui sera disponible, et que cette petite partie ne pourra pas être utilisée à plein, mais au contraire en minorité, puisqu'il s'agira d'appliquer dans les RER pour ce qui me concerne les gestes barrières. Résultat des courses, on va avoir des gens, et c'est la préoccupation de Valérie Pécresse, et quel que soit le camp politique auquel on appartient, moi je ne suis pas du même bord politique que Valérie Pécresse, mais je suis élu en Ile-de-France, maire d'une ville dans laquelle il y a une gare du RER, et je suis très très préoccupé. On risque d'avoir des sujets, notamment pour moi en grande couronne qui suis en milieu de ligne. Si on peut occuper les trains qu'à 20%, on va pouvoir monter dans les trains dans les stations qui sont à l'amont, on ne pourra plus monter à l'aval et on risque de se retrouver avec des situations totalement ingérables. C'est la raison pour laquelle, et c'était le coup de gueule que je voulais passer, moi je suis plein de reproches à l'égard du ministère des Transports et du gouvernement qui n'a pas répondu à l'heure où je vous parle favorablement à une proposition qui est une proposition de bon sens, qui vient de l'Essonne, du président du conseil départemental de l'Essonne, mais que je partage, François Durovray, qui dit qu'il faut qu'on mobilise les cars de tourisme pour la Grande Couronne. Il y a 2000 cars de tourisme en Ile-de-France qui aujourd'hui sont totalement à l'arrêt. Si on veut pouvoir respecter les gestes barrières, si on veut que l'économie reprenne et que les gens puissent retourner au boulot tout en protégeant leur santé, et qu'on n'ait pas des bagarres dans les gares pour accéder au transport, il faut qu'on mobilise ces cars de tourisme. On a su le faire avec Ile-de-France Mobilité pendant la période de la grève de décembre-janvier. Il faut qu'on sache le faire maintenant, c'est indispensable.
Et qui doit vous répondre ?
C'est à la fois le ministère des Transports et Ile-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, mais c'est le ministère des Transports qui donne le go. La proposition est sur la table depuis 10 jours, ça fait 10 jours que François Durovray la formulée avec les élus de l'Essonne, et on attend encore. Et nous, le risque ce que nous craignons, c'est une grande cohue dans les gares si des Françaises et des Français qui seront munis de leur attestation, qui doivent aller bosser, se présentent pour accéder au train et qui ne peuvent pas y monter, parce que là on va avoir un vrai sujet.
Tout ça fait dire qu'on n'est pas forcément tout ça fait dire, Judith, qu'on n'est pas forcément prêt pour lundi.
Oui, on n'est pas forcément prêt, mais en même temps, les lourdeurs administratives sont telles que si Emmanuel Macron n'avait pas imposé cette date, y compris à son premier ministre, on serait encore à se demander si on allait déconfiner en septembre ou pas. Je trouve la proposition du président de l'Essonne extrêmement intéressante. Il me paraît évident que pour avoir moins de monde dans les transports, il faut élargir et non pas restreindre l'offre de transport. Enfin, c'est de la bête logique.
On verra comment tout ça se passera la semaine prochaine. Nicolas Corato.
Oui, moi j'ai un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, et malgré les critiques par rapport aux annonces du président sur la culture, Je reviens pas hein, sur les défauts de son plan, notamment sur le flou, sur ce qui concerne la commande publique, qui à mon avis est l'essentiel pour sauver le secteur culturel. Mais je retiens quand même le sauvetage des intermittents du spectacle, et cette année blanche jusqu'en août, il faut le dire et il faut s'en féliciter. C'est un effort important de l'État. Au-delà du fait que ça va assurer la rémunération de quasiment 1 300 000 personnes pendant plus d'un an, ça va surtout sauver des filières de métiers, des métiers qui sont très très rares et qui n'auraient pas survécu et qu'on n'aurait pas retrouvé si ces gens-là changeaient de métier ou se retrouvaient sans emploi ou sans rémunération. Donc c'est utile qu'on ait préservé cette filière, ces métiers, ces compétences. C'est un atout fort, la culture, pour la France. C'est un atout très, très fort dans notre manière de redémarrer, y compris économiquement. Et moi, je me félicite de cette annonce du président de la République.
Bon, on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. Frédéric Mitterrand est particulièrement critique sur ce plan. Mais bon, vous avez raison de le noter. Moi, je voulais faire un coup de gueule.
Il n'a pas brillé comme ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. On n'en a pas un souvenir ému en tant que ministre de la Culture.
Non, non.
Donc, voilà.
Non, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Moi, je m'interrogeais sur la publication hier par le journal Le Monde d'une tribune de Nicolas Hulot et de 100 propositions de lieux commun. Je ne sais pas si vous avez vu ces propositions tout à fait indigentes. Le temps est venu de la lucidité, le temps est venu de dresser un horizon commun, le temps est venu de résister à la fatalité, le temps est venu de ne plus se mentir. Je rappelle que ce monsieur a été ministre de...
J'aime bien le lobby des consciences aussi.
Oui, le lobby des consciences. On remarque que le mot femme n'est prononcé qu'une fois hein, dans toute cette litanie totalement naïve. Donc lui, hier, s'est justifié en disant « Oui, on va dire que je suis naïf, mais c'est important. » Je ne sais pas si vous l'avez vu et lu. En tout cas, c'est vrai que ça m'a semblé être une accumulation de niaiseries.
On n'a jamais coupé autant d'arbres pour publier autant de poncifs quand même, parce que moi je me pose quand même la question, mais Judith aura certainement la réponse, comment une rédaction, alors c'est celle du Monde, peut faire le choix de donner autant de place à si peu de contenu. C'est quand même, moi ça me pose une question, autant je comprends les objectifs de Nicolas Hulot et qu'il veuille exister, je comprends moins la politique éditoriale du Monde, voilà.
Oui, moi, ce que je voudrais dire à Valérie,
c'est que
je voudrais rétablir une sorte de vérité sondagière. On a avec coutume de dire que Nicolas Hulot est une personnalité populaire chez les Français.
Ouais.
Oui et non. Oui, dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, il est premier avec plus de 70% de bonnes opinions. Mais la question ne mange pas de pain. C'est une popularité de papier. Quand il était ministre, il y a quelques mois encore, les Français étaient beaucoup plus sévères, stigmatisaient son inaction et lui ont fortement reproché d'avoir quitté le gouvernement, ce qui a été perçu comme un abandon. Donc ce type de tribune sur, comme vous le dites, des Yaka Faucons, je ne pense pas que ça soit particulièrement apprécié.
Oui. Judith, une réponse peut-être sur...
La question de Nicolas, voir que le Monde a une ligne. On le voit depuis plusieurs années, mais encore plus depuis ce déconfinement, où le Monde a multiplié la publication de tribunes à peu près toujours dans le même sens, c'est-à-dire abat l'horrible néolibéralisme, vive le monde d'après, décroissant et écologique. Donc ça s'inscrit dans la ligne du Monde qu'il lui appartient de définir et à ses lecteurs d'adhérer ou pas.
Ouais, vous avez lu ces 100 propositions ?
Oui, j'ai eu du mal, mais j'ai lu. Alors je suis d'accord avec vous, c'est très naïf et cuculapraline. Avec quand même un petit côté totalitaire, parce qu'on sent bien, j'ai cité le lobby des consciences, j'ai ajouté à votre liste le lobby des consciences tout à l'heure, on sent bien qu'en plus, Nicolas Hulot se réserve de décréter qui détient la vérité.
Oui, absolument. Bon, voilà, c'était c'est vrai que c'est un catalogue quand même assez consternant de propositions, mais bon, lui les assume, donc voilà. On se retrouve dans un instant, on va parler des 3 ans d'Emmanuel Macron à la tête de l'État français, de ses propositions, en tout cas sur la forme et sur le fond, faites pour la culture, et puis travailler plus, faudra-t-il travailler plus, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff dans tous ses états. Enchaînons peut-être sur la culture avant de parler des 3 ans d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a présenté à l'Élysée une série de mesures pour aider le secteur culturel qui est très pénalisé, c'est du jamais vu, par la crise sanitaire. Peut-être parlons de la forme qui a beaucoup fait réagir. Il était en bras de chemise, vous allez me dire que c'est peut-être un détail, mais très exalté. Je vous lis quelques tweets. Exalté comme Pete Doherty en live à l'anniversaire d'El Chapeau, il invente l'utopie concrète et assume le grand écart entre un idéalisme naïf et un pragmatisme économique. Vacuité sur le fond, infantile sur la forme, le style management faussement décontracté est insupportable. Tombe le blazer pour draguer la culture dans un discours halluciné et hallucinant. Mimique narcissique, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que la forme a surpris. Judith, vous l'avez regardé, évidemment. Vous en avez pensé quoi ?
À vrai dire, j'ai pas tout regardé parce que j'ai trouvé ça extrêmement, effectivement, foutoiresque, exalté sans raison. Alors, lui qui avait dit à propos du risque d'écroulement évoqué par Édouard Philippe, je n'ai pas ces grands mots, là, pour la culture, il n'a pas mégoté sur les grands mots. Cette façon, d'ailleurs, dont le président de la République court-circuite la communication de ses ministres ne contribue pas à rétablir cette confiance dont Frédéric Dabi rappelait avant la pause qu'elle manquait cruellement au pouvoir. Il est en fait le plus mal jugé d'Europe, ou à peu près.
Oui. Frédéric Dabi, sur ce que déjà cette intervention qui était nécessaire, très attendue, hein, sur la culture, mais la forme, on a l'impression qu'il s'adapte un petit peu à son public. C'est-à-dire, on est avec les artistes, on ne met pas de chemise, on ne met pas de veste, pardon.
Je partage ce que vous dites, ce qu'a dit également Judith. C'est vrai que on sait très bien qu'Emmanuel Macron a une communication extrêmement plastique et une capacité d'adaptation. Maintenant, les traces dans l'opinion publique, en termes critiques, je n'y crois guère. On se souvient aussi qu'il avait été en bras de chemise lors d'une tournée dans les Dômes, je crois, avec une photo avec une personne torse nu. Il y avait eu ce qui s'était passé lors de la fête de la musique à l'Élysée. Je doute sincèrement que ce soit des actes lourds qui impriment négativement. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est sur le fond, la mesure.
Pardon, Frédéric, ce que vous citiez a imprimé négativement.
Hein. Oui, ça a imprimé quand même.
Quand je regarde les enquêtes qualitatives de l'IFOP, il y a eu quelques propos peu de temps après. Quand on travaille, là, on a travaillé sur le bilan du quinquennat 3 ans après, ce sont des choses qui sont extrêmement peu citées. Maintenant, moi, ce qui me frappe sur le fond, c'est quand même l'aide donnée aux intermittents du spectacle. Oui. C'est quand même une véritable rupture par rapport à des mandats précédents. On se souvient du conflit extrêmement dur. C'était, je crois, sous Jean-Jacques Ayagon. On se souvient de phrases de Nicolas Sarkozy ou de son entourage qui parlait d'une réforme indispensable qui coûtait 1 milliard d'euros. C'était il y a quelques années. Là, on voit très bien que tout a été donné. Je n'ai pas à dire si c'est bien ou mal, mais je pense que les Français, vu leur attachement à la culture, ça a peut-être plus imprimé qu'une forme peut-être effectivement un petit peu négligée.
Oui, l'été doit être apprenant et culturel, c'est ce qui en est ressorti un petit peu partout, en disant qu'il fallait que justement ces intermittents aillent dans les écoles pour expliquer leur métier, pour faire des représentations. Voilà, Romain Colas, il y a cet aspect aussi de, on rase gratis hein, quand même, c'est on ouvre le carnet de chèques et on donne quand même beaucoup, beaucoup d'argent à tout le monde.
Oui, alors je suis totalement d'accord avec ce que disait Nicolas Corato tout à l'heure. S'il y a une chose dont on peut se féliciter dans ce qu'a pu annoncer hier Emmanuel Macron, c'est effectivement cette année blanche pour les intermittents, parce que c'est pas un hasard si c'est la France qui a inventé le concept d'exception culturelle. C'est parce que la culture, la création, au-delà des filières qui sont importantes, des savoir-faire ancestraux qui existent dans ce pays et qui existent parce qu'il y a un soutien public qui peut prendre la forme du régime d'intermittent qui prend d'autres formes, qui existe dans ce pays. Tout ça, on peut s'en féliciter. Et moi, vraiment, je me réjouis qu'il y ait eu cette décision qui me paraît essentielle, parce que pour ce secteur, il n'y avait pas d'autre solution que de sortir le carnet de chèques. Sinon, on acceptait que ce qui fait la richesse culturelle de notre pays, en tout cas toute une partie de la richesse culturelle de notre pays, disparaisse purement et simplement. Donc là, c'était fondamentalement utile, indispensable. Après, sur le reste, je reviens pas sur la forme d'Emmanuel Macron. Moi, voilà, il y a une préoccupation permanente chez lui de se mettre en scène. Il y a Emmanuel, chef de guerre, Emmanuel, manager de projets culturels, Emmanuel à la plage. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a une préoccupation permanente, et je pense que ça brouille son image. Mais ça, Frédéric Dabi pourrait sans doute vous le dire mieux que moi. C'est-à-dire que ça brouille l'image, la personnalité qu'on peut percevoir d'Emmanuel Macron. Ça gâche un peu le message, sans doute parfois. Sur le fond de ce qu'il a, annoncé.
La preuve, c'est qu'on parle de la forme. De la forme qui a été, qui est quand même ce que beaucoup de des journalistes. Il y avait beaucoup de réactions sur Twitter sur sur la forme.
Sur le fond, ce qu'il a annoncé, il y a effectivement énormément de flou. D'abord, les intermittents sont pas des animateurs de colonies de vacances. C'est encadrer des jeunes enfants en animation, c'est aussi un métier. Et puis surtout, on n'est même pas en situation de savoir si on peut ouvrir cet été nos centres de loisirs, si on peut faire fonctionner à minima nos écoles au-delà de l'été apprenant pour éviter que ce soit un été de massacre pour les gamins ont été les plus éloignés de l'école. C'est temps dernier. Donc moi, la préoccupation qui est la mienne, c'est de faire en sorte qu'on essaye de rattraper, si on peut ouvrir cet été, des mômes dont on sait que le confinement, la fin de la classe au 13 mars dernier a été un véritable drame et qui pourraient en être pénalisés toute leur vie. Donc je vois pas bien de concret derrière l'exaltation d'Emmanuel Macron. Nouvelle sur les intermittents du spectacle.
Oui, c'est ça. De concret, il y a eu ça. Après, il a parlé de commandes qui seront passées par l'État, mais c'est resté
pour
assez
les créateurs
flou.
De moins de 30 ans.
Oui. Peut-être pour revenir sur la forme, Valérie, je vais essayer de prolonger ce que disait Judith. Moi, il y a une chose qui me choque, c'est l'alternance entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a une fois le Père Noël, une fois le Père Fouettard. Et parfois dans la même journée, d'ailleurs, c'est ce qui va arriver aujourd'hui, puisque on a eu Emmanuel Macron avec plein de bonnes nouvelles hier, avec une forme assez hallucinante, mais bon, ça on est habitué, on finit. Et cet après-midi, certainement, la soupe à la grimace avec Édouard Philippe, qui va nous expliquer que tout est noir et qu'on n'y arrivera pas et qu'on va se retrouver reconfiné à la moindre incartade. Et je pense que, encore une fois, dans ces moments de crise, il faut un peu de sobriété, un peu de clarté, parce que je pense que c'est quoi la tendance. Et moi, j'aimerais entendre Frédéric Dabi. Est-ce que les Français sont rassurés ou pas? Moi, je vais vous dire, à titre personnel, j'en arrive même à me dire que je vais plutôt écouter Emmanuel Macron qu'Édouard Philippe. Ça me rend plus heureux d'écouter Emmanuel Macron. Ça me rend moins inquiet et moins stressé par rapport à l'avenir. Mais vous vous rendez compte, ça, quoi, 60 millions ou 65 millions d'habitants qui se disent un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir, et finalement le 11 mai, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'il faut rester chez nous? Ça met quand même en péril, au final, la manière dont une population va se comporter. Et je pense qu'ils ont une responsabilité tous les deux. Je ne sais pas où est la vérité. Est-ce qu'elle est du côté d'Edouard Philippe ou est-ce qu'elle est du côté d'Emmanuel Macron? Il y a beaucoup de politicaillerie derrière tout ça, mais il faudrait, dans un souci de responsabilité, qu'ils aient un langage qui soit homogène. Parce que soit on rigole, soit on pleure, mais il faut qu'on choisisse.
Alors, on va y revenir dans un instant. Frédéric Dabi va vous répondre. À tout de suite, 0826 300 300, si vous voulez intervenir sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, quel bilan pour les 3 ans d'Emmanuel Macron? On parlait de son intervention hier à propos de la culture. On a un appel d'Olivier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Vous appelle, je suis donc artiste lyrique, il veut dire que donc je chante de l'opéra notamment, je suis intermittent du spectacle, ça fait 17 ans, et donc depuis les annonces d'hier, j'entends évidemment, on en parle beaucoup, j'aimerais juste apporter une petite précision, c'est-à-dire que j'entends qu'on doit travailler plus, mais comme tout le monde, on aimerait avoir plus de travail, on cherche ce travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à la moindre audition, pour la plus petite production, même quand on est très mal payé, il y a pléthore de candidats. Une autre chose, on nous dit qu'on doit aller faire des animations dans les écoles, c'est très bien, sauf qu'on n'a pas attendu les lumières de ce gouvernement et de son président pour le faire. Moi-même, je devais aller faire un concert dans un collège le 25 mai, j'attends de savoir si on va le faire ou non. J'ai beaucoup de collègues qui le font déjà, des animations. On sait que des comédiens vont dans les écoles ou dans les EHPAD. Enfin, on n'a pas attendu tout ça pour faire ça. Donc du travail, ouais. on veut bien en avoir, effectivement. Et donc c'est pas un chèque en blanc qu'on nous fait.
Ouais.
C'est pas un chèque en blanc. Le travail, on l'attend. On attend que les théâtres rouvrent. On attend qu'on nous laisse travailler.
Ouais, donc vous n'avez pas été convaincu du tout par ce qui a été annoncé hier. C'est-à-dire que vous dites un été apprenant et culturel, vous êtes prêt à le faire, sauf qu'il n'y a pas de lieu pour aller vous chanter, jouer, etc.
Tout à fait. Les festivals sont annulés. Moi, j'ai des productions qui ont été annulées jusqu'au mois de septembre. C'est beaucoup d'heures de perdu, donc j'ai pas été convaincu, soyons clairs. Moi, je suis très content de cette annonce de l'année blanche, on l'a réclamé tous, puisque il faut savoir que quand on est intermittent, si on n'a pas les heures pour renouveler, on bascule du jour au lendemain au RSA. C'est tous les ans que ça recommence, cette épée de Damoclès, c'est tous les ans. Donc on est très content de cette année blanche.
Ouais. On est évidemment très content de cette année blanche. On est prêt à aller dans les écoles, dans les colonies de vacances, etc. Sauf que concrètement, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi, que vous le faisiez déjà. C'est une précision intéressante et importante.
On le fait déjà, certains d'entre nous plus que d'autres, mais parce qu'on n'a pas tous les mêmes plans de carrière, on n'a pas tous les mêmes raisons professionnelles. Et évidemment, on ne va pas tous débarquer demain dans les écoles. C'est pas, évidemment pas comme ça que ça peut se passer. Et d'autant plus qu'il y a déjà des gens qui sont là pour ça. C'est un effet d'annonce qui, pour moi, une fois de plus, hein, parce qu'à chaque fois qu'on parle des intermittents, c'est le cas, une fois de plus va monter les gens contre les uns contre les autres. Ouais. Donc encore une fois, on est très content de cette année blanche parce que c'est vraiment, on en avait besoin. Mais par contre, les effets d'annonce de travailler plus, ça me fait vraiment marrer.
Ouais. Une réaction peut-être. Merci de nous avoir appelé, Olivier. Merci de ces précisions. Vous avez une réaction à ce qui vient d'être dit ? Quand on connaît le secteur, c'est-à-dire que quand on regarde un observateur et qu'on n'est pas forcément spécialiste de la culture ou du métier de certains métiers qui concernent les intermittents, on se rend compte que oui, ce sont peut-être des annonces qui sont intéressantes, mais qui concrètement sont pas applicables.
Alors, pour le coup, l'année blanche, c'est vraiment une mesure applicable et qui aura un effet majeur sur le secteur.
Oui, ça, c'est sûr.
Moi, ce que je retiens de ce que disait votre auditeur, c'est quand même cette coupure nette entre le président de la République et une partie de la population, parce que voilà une mesure que tout le monde salue, que votre auditeur salue également, mais la manière dont elle est présentée par le président de la République est encore stigmatisante et arrive à cliver. C'est-à-dire que même lorsqu'il fait un acte politique qui est disruptif pour lui, parce que clairement, Emmanuel Macron, il nous avait dit quoi qu'il en coûte, et d'une certaine manière, il est à la hauteur de ses promesses. Après, on peut discuter, hein, on peut débattre de ce que ça va représenter, mais il fait l'effort financier budgétaire pour sauver, avec de l'argent public, des secteurs qui sont stratégiques pour nous. Même quand il fait cet effort-là, les gens à qui il s'adresse, les gens qui en bénéficient, d'une certaine manière, peuvent lui reprocher la manière dont il l'a présenté ou dont ils ont été stigmatisés à l'occasion de cette annonce. C'est quand même dire à quel point il y a un problème sur la manière dont Emmanuel Macron porte ses choix politiques et depuis le début de son quinquennat, mais bien entendu de manière beaucoup plus visible depuis le début de la crise sanitaire.
Alors on va passer
à l'occasion de cette crise, un secteur... savoir la culture qui est déjà sous perfusion d'État, l'est encore plus, mais les crises ne sont pas le bon moment pour faire ces réformes en profondeur, tant de fois promises et jamais appliquées.
Oui, c'est vrai. Je vois un tweet d'un confrère qui dit « Question sincère, de combien de pays au monde le chef de l'État, père de la nation, explique au peuple comment il devra vivre, apprendre, créer et se distraire cet été ?» Ça a été très très mal reçu, cette phrase « Cet été sera apprenant et culturel ». Et les gens ont répondu « Je boirai du rosé et je ne ferai rien si j'en ai envie ».
Ce qui n'empêche pas de se cultiver.
Ce qui n'empêche pas de se retrouver. Romain Colas. Oui, hein. Romain Colas, peut-être une réaction.
Non, je voulais simplement réagir au fait qu'il ne faut surtout pas opposer le traditionnel rosé de l'été entre copains au fait de pouvoir se cultiver pendant l'été. L'un peut aller parfaitement.
Est-ce que c'est au chef de l'État de vous dire de lire un livre ?
Non, mais c'est. Le chef de l'État, émettre de temps en temps des recommandations. Et lorsqu'il s'agit d'essayer d'élever le niveau culturel d'une nation vers le haut, je peux que le soutenir. Mais enfin, c'est encore une fois dans la forme. On ne sait même pas si on va avoir le droit de s'éloigner un peu de domicile cet été pour aller partager du temps avec des proches. Enfin, franchement, il y a une déconnexion pour le coup. Et ça, c'est une constante depuis le débat, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a une déconnexion parfaite entre l'idée de ce qu'il se fait, de ce que veulent entendre les Français ou de ce qu'ils attendent de lui, et puis la réalité de ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les Françaises et les Français, mes concitoyens de Boussy-Saint-Antoine, c'est est-ce qu'ils vont enfin pouvoir aller visiter le proche qui habite loin, qu'ils n'ont pas vu depuis des semaines. C'est ça leur sujet. Voilà. Et de ce point de vue-là, pour revenir au débat qu'on avait précédemment, ils sont plus attentifs en ce moment à la parole d'Édouard Philippe, parce que c'est lui le maître des horloges et des trajets que la parole d'Emmanuel Macron.
Alors justement,
on peut aller voir ses proches. La question de l'attestation de l'employeur pour prendre les transports en commun en région parisienne, ça pose aussi ça. Ça interdit à toute une partie de la population qui ne travaille pas de faire des choses qu'elle estime, elle, essentielles en lui interdisant de bouger.
Oui, ce que je voulais dire, c'est...
Frédéric, je voudrais lire un message sur Facebook de quelqu'un qui dit « J'ai des amis intermittents du spectacle, mais nous qui sommes artisans et commerçants, nous avons 1 500 € pour certains pour le mois de mars. Ça paye même pas les charges et en avril, on a toujours pour certains 1 250 €. Alors nous aussi, on va finir au RSA. » Ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier sur pourquoi certains vont avoir, d'autres pas. Pardon, Frédéric Dabi, je vous redonne la parole.
Je voulais simplement rebondir sur ce qu'avait dit Romain Colas. C'est vrai que ce qu'il a dit sur la déconnexion d'Emmanuel Macron perçue sur les réalités correspond à une critique très forte qui lui a été adressée et relativement récurrente depuis le début du quinquennat, avec l'acte lourd de la baisse de 5 € des APL, des petites phrases comme traverser la rue pour trouver un emploi. Bien sûr, les critiques sont majeures sur l'absence de résultats, sur le sentiment qu'en matière de pouvoir d'achat, les choses ne vont pas mieux, mais il y a quand même, dans le discours des Français critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, le sentiment qu'il dégage un cocktail de mépris, arrogance, déconnexion des réalités du pays. Et c'est vrai que sur la question de la proximité, dans la dernière période, Édouard Philippe a marqué énormément de points dans notre baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Match, dont on a parlé avant-hier sur vos antennes. Édouard Philippe a gagné une dizaine de points sur cette dimension de connaissance et de compréhension des préoccupations quotidiennes des Français.
Mais sur la question que vous posez, Nicolas Corato, à savoir, il y a good cop, bad cop, c'est-à-dire le bon flic, le mauvais flic, il y a un jeu de rôle, il y en a un qui est assez optimiste, qui redonne de l'espoir, et l'autre qui arrive en disant « attention, c'est pas si simple que ça,
le confinement… » Je pense que les Français ont intériorisé la complémentarité des deux têtes du discours des deux têtes de l'exécutif. Quand Emmanuel Macron annonce le confinement lors de son intervention du 16 avril, c'est un soulagement, mais en même temps une inquiétude forte. On attend que le Premier ministre mette en musique, annonce concrètement les détails du plan. Il ne le fait pas lors de sa conférence de presse du 26 avril, et il y a une très forte déception. C'est vrai que il y a une complémentarité qu'on voit un petit peu moins, puisque Emmanuel Macron a fait des déplacements, notamment à l'école primaire de Poissy, où il a joué le rôle d'un ministre d'un ministre de l'Éducation, voire d'un Premier ministre. C'est vrai qu'il y a peut-être une confusion des rôles qui peut gêner, même si il y a un décalage très fort entre le discours médiatique qui met en scène, vrai ou faux, des dissensions, des prises de bec, des mots différents de la bouche d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, et les Français qui perçoivent quand même ce couple exécutif comme extrêmement uni.
Extrêmement uni, malgré les dissensions.
C'est comme ça qu'il est perçu. Ça peut changer. Mais en tout cas, les dissensions n'ont pas, je dirais, infusé pour insinuer le doute, comme ça avait été fait pour le couple Hollande-Manuel Valls ou le couple Sarkozy-Fillon.
Alors, on a Barbara en ligne avec nous. Bonjour Barbara.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci beaucoup pour votre accueil. Alors, si vous voulez, moi, on est en pleine crise encore du coronavirus, aux portes du déconfinement. Et pour moi, c'est le moment pour faire un peu le bilan des 3 ans de Macron. Alors, si vous voulez, au début, moi, j'étais dans l'impartialité, parce qu'on se doit d'être impartial quand quelqu'un est élu. On doit lui donner sa chance, donc on a attendu à peu près 6 mois. Maintenant, on est à 3 ans, et pour moi, ce bilan est une catastrophe. Et cette catastrophe, elle se concrétise dans sa gestion de la crise du coronavirus pour une raison toute simple, c'est que on voit un grand et bon gouvernant au pied de la crise. On le voit pas quand tout va bien, parce que si tout va bien, à la limite, on n'a même pas besoin de président, une assemblée, un premier ministre peuvent suffire. Mais là, on est dans une crise gravissime. Et cette crise, si vous voulez, pour moi, fait ressortir encore plus tout le reste. C'est-à-dire qu'en économie, le chômage, on avait beau nous raconter des histoires avec les chiffres de Pôle emploi, moi, je ne crois pas aux chiffres ni aux sondages. Je crois à ce que je vois avec mes petits yeux. Et si vous allez dans les villes moyennes françaises, pas dans les quartiers huppés, mais dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les villages, vous verrez que la pauvreté s'installe durablement. Et ce n'est pas en surtaxant les classes moyennes, parce que finalement, c'est ça le problème de Macron. Comme il ne sait pas trop ce que c'est que la gouvernance, il s'imagine qu'en surtaxant constamment, en rajoutant toujours une petite taxe par-ci, une petite taxe par-là, on va régler les problèmes des Français. Non. Moi, je crois que ce qu'il faudrait, c'est le contraire, qu'il apprenne un petit peu l'humilité par rapport à tout ce qu'il a appris à l'ENA, qu'il le mette de côté à la limite, qu'il les jette à la poubelle, et qu'il vienne à des fondamentaux de bon sens et je dirais même de sagesse. Parce que, par exemple, il avait supprimé l'ISF, mais c'est pas anecdotique. L'ISF, si cet argent était bien géré, bien utilisé, ça serait pas anecdotique. Il nous a fait une fracture sociale sans précédent. On a vu des policiers français qui deviennent à la limite des milices éborgnés des Français. La France périphérique, pour moi, elle comprend qu'elle va rester périphérique. Et si vous voulez, pour moi, le coup de grâce, hein, excusez-moi Valérie, mais le coup de grâce, allez-y. Ça a été quand j'ai appris qu'il a signé un décret pour faire apprendre l'arabe aux primaires. Alors, c'est pas comme ça qu'on va intégrer les jeunes émigrés.
Les Français. Alors, c'est pas Barbara, juste une précision. C'est un accord qui avait été mis en place par Najat Vallaud-Belkacem. Voilà. Et ça concerne également l'italien, ça concerne le serbe, ça concerne plusieurs langues. Il n'y a pas que l'arabe. Donc, il fallait donner cette précision.
Il y a un décret spécifique qui est en fait la transcription d'un accord signé en 2017 entre la France et la Tunisie pour faire venir des profs tunisiens. Mais je rappelle que cet enseignement de l'arabe en primaire est facultatif et non pas obligatoire, puisque c'était la querelle qui avait surgi au moment où Akib El-Karoui l'avait préconisé dans son rapport sur la fabrique de l'islamisme et où Jean-Michel Blanquer l'avait reprise. Mais effectivement, c'est spécifiquement avec la Tunisie.
Oui, mais ça concerne d'autres langues aussi, l'apprentissage d'autres langues au primaire.
L'apprentissage d'autres langues est possible, mais la nouveauté, c'est ce décret du 30 avril, l'auditrice a raison.
Alors, on a un auditeur qui lui nous dit Emmanuel Macron, c'est un gars qui a la poisse. Première année gilet jaune, deuxième année grève SNCF retraite, troisième année Covid. Pour les quatrième et cinquième années, je crains le pire.
C'est sa politique qui a la poisse, pas pour le Covid, mais enfin les deux premiers épisodes
Romain
qui ont marqué son quinquennat. C'est sa politique qui a la poisse pour le pays, et pas l'inverse. La crise des gilets jaunes. Comme le conflit social sur les retraites, c'est lié au choix d'Emmanuel Macron et à ses choix personnels d'ailleurs, parce que si on verse sur le bilan des 3 années d'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, on peut considérer que sans doute, avec la majorité qui est la sienne, docile, servile à l'Assemblée nationale, jamais un président de la République n'aura eu autant de capacité à décider seul d'à peu près tout.
Ouais. Judith, ça vous a fait sourire ?
Peut-être. Il y avait le Sénat, l'Assemblée nationale, la majorité des voire tous les départements, les grandes villes de France et toutes les régions, il faut s'en souvenir.
Nicolas, moi j'étais député dans la majorité
Je m'en souviens, Romain.
Vous a pas échappé que la majorité manquait de servilité.
Oui, mais ça c'était peut-être aussi une question de capacité politique, mais vous avez raison. Non, peut-être pour revenir sur ce que disait Barbara, moi ce qui me marque dans son bilan des 3 ans de Macron, c'est quand même cette question de la défiance, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a pris la présidence d'un pays qui est une société de défiance qu'on voit ailleurs en Europe, qu'on voit aux États-Unis. La France n'échappe pas à cette tendance de la société de la défiance. Et finalement, au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il n'a pas réussi à inverser le cours de l'histoire, voire même pire. il a augmenté la fracture de confiance entre les Français. Et quand Barbara parle du décrochage de la France périphérique, c'est un phénomène qu'on a vu apparaître bien avant Emmanuel Macron, qu'on avait déjà identifié, mais manifestement, il a amplifié ce décrochage et cette fracture. C'est-à-dire que la société française apparaît beaucoup plus fracturée au bout de 3 ans de Macron qu'elle ne l'était au début de son quinquennat. Et je passe sous silence le bilan économique, social. C'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a une vraie crise de confiance dans la capacité du politique à agir. On avait dit, hein, beaucoup de commentateurs avaient dit au moment de son élection flamboyante que ça lui donnait énormément de responsabilités et qu'il y avait un vrai risque pour l'avenir si jamais il échouait. On est plus qu'à mi-mandat. L'échec, il est quand même patent. On espère que la crise sanitaire va peut-être remettre à plat un certain nombre de ses arbitrages et qu'il essaiera de redémarrer une deuxième phase plus respectueuse des citoyens français. Mais je suis assez sceptique. Et quand j'entends vos auditeurs, je me dis quand même que cette fracture, elle est ancrée profondément au cœur du territoire français et qu'il en héritera tout comme ses successeurs, tout comme ceux qui viendraient alternance au pouvoir après lui.
Alors, on va marquer une petite pause. On a un auditeur qui nous dit, ça s'adresse à vous, Frédéric Dabi, je ne comprends pas pourquoi il est aussi haut dans les sondages alors qu'il y a tellement de colère. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff, Frédéric Dabi. Donc cette question à propos des 3 ans d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur qui s'intéresse d'un score plutôt pas trop mauvais pour le président de la République alors qu'on sent de la colère de partout?
Oui, bah c'est une question classique. On avait même consacré ensemble une émission sur les sondages. Je ne sais pas si vous en souvenez, Valérie.
Oui, bien
c'est
sûr.
Vrai qu'il y a toujours ce type de critique qui est « Ah, mais comment peut-il être à 40% alors que autour de moi, tout le monde est mécontent ?» Bah, c'est ce que permet d'objectiver les enquêtes d'opinion où on interroge l'ensemble des Français, pas seulement les quartiers UP, mais les communes rurales, pas seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes. C'est vrai que quand on regarde la popularité d'Emmanuel Macron, c'est un président qui est structurellement impopulaire. Je partage complètement le discours de Nicolas Corato sur la notion de défiance qui a commencé il y a de très nombreux quinquennats. C'est depuis le quinquennat de Jacques Chirac où la capacité du politique à changer les choses, à transformer son quotidien a été très fortement fragilisée, d'où le succès ou le crédit grandissant des élus locaux qui, eux, comme le maire, peut transformer la vie. Maintenant, nous avons un président impopulaire. Pour autant, il a quand même, il faut le dire, un rapport très singulier avec la popularité, parce que quand on regarde l'histoire du quinquennat d'Emmanuel Macron, il a connu 3 fort rebond de popularité, alors que traditionnellement, on sait très bien que hors période de cohabitation, on ne sort jamais des enfers de l'impopularité. Il a très fortement progressé en fin d'année 2017 au moment de la loi travail. Il a regagné une quinzaine de points après le mouvement des Gilets jaunes. Et là, bien sûr, dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire, il a connu une embellie de popularité.
Alors, une réaction, Judith Van Troop?
Oui, une embellie qu'il a perdue. Hein. Moi, je regarde aussi.
Il a perdu la moitié, effectivement.
Je regarde les comparatifs européens. Emmanuel Macron n'est pas bien placé. Effectivement, l'équité impose de faire la part entre les fractures dont Emmanuel Macron a hérité, qui sont anciennes et qui ne sont pas imputables, et puis ce qu'il a fait lui avec sa gestion. Qui n'a pas du tout permis de les résorber, même si moi j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées. La réforme de la SNCF en était une, l'assouplissement des règles du marché du travail, je trouvais que ça partait bien aussi. Je pense que les retraites, la réforme est morte là. La réforme de l'assurance chômage, pareil, elle est apparemment repoussée, mais on n'en parlera plus. Une page vierge là. Qui a lieu de programme à Emmanuel Macron pour l'après déconfinement. Je ne sais pas du tout ce qu'il va en faire. Il nous a promis de faire sa propre révolution. éventuellement avec une union nationale dont on peine à discerner les contours. Moi, c'est ça que je trouve inquiétant quand on interroge les gens, alors pas sous forme de sondage, hein, j'ai pas des instruments, mais quand on parle avec les gens, quelle que soit leur profession ou pas leur profession d'ailleurs, l'idée c'est plutôt de retrouver ce que le monde d'avant avait de bien, et même retrouver le monde d'avant avec le plaisir de sortir, le plaisir de travailler pour quand même une écrasante majorité des gens, et pas de se lancer dans je ne sais quelle utopie.
Oui. Alors, c'est une utopie certes, mais c'est vrai qu'il a perdu la moitié de sa popularité, mais ça reste quand même assez haut. Je ne sais pas qui veut intervenir, Romain Colas ou Nicolas.
C'est vrai que Frédéric a raison. Ce qui est très très marquant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est sa capacité de rebond, c'est-à-dire que effectivement les précédents quinquennats nous avaient habitués finalement à des courbes assez une fois que la tendance est baissière, la tendance reste baissière pendant tout le quinquennat. On voit bien que ce soit pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande, on était habitué à ce genre de théorème. Avec Emmanuel Macron, il y a toujours des phénomènes de surprise parce qu'il a un socle quand même qu'on appelle un socle bourgeois pour faire rapide, mais qui est quand même très structuré et qui lui est fidèle, avec à côté une opposition dans la population qui est de plus en plus violente. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est la radicalisation de l'opposition à ce président. C'est-à-dire que à force de vouloir brider, tuer les oppositions, de vouloir passer à côté du Parlement, de passer à côté des corps constitués, il a mis le débat politique dans la rue et de la manière la plus radicale possible. Et c'est ça qui est inquiétant sur la phase 2 dans l'utopie dont vous parliez, Judith, c'est faudrait pas se tromper. C'est-à-dire que est-ce que cette attente de changement qui est réelle dans le pays, entre la situation d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, et puis celle d'avant ou celle d'après, ne va pas conduire justement à une forte opposition des radicalités, quelles qu'elles soient dans le pays, et à une explosion des conflits sociaux. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit le mieux placé pour justement apaiser la nation. Et finalement, c'est peut-être ça, la deuxième phase de son quinquennat, ce serait une phase d'apaisement. Est-ce qu'il est capable de produire cette phase? C'est une grande question.
Oui, il y a juste juste un élément que je voudrais rajouter, ce qui fait aussi peut-être que Emmanuel Macron reste relativement haut par rapport à l'appréciation que semblent en avoir les Français, c'est l'absence totale d'opposition institutionnelle et politique. Elle n'arrive pas du tout à imprimer.
Et là, ça vous concerne, Romain Colas, puisque vous faites partie du Parti socialiste.
Oui. Exactement. Il y a eu une volonté, et je pense que je suis en total accord avec ce que vient de dire Nicolas. Il y a eu une volonté d'Emmanuel Macron, ça correspond à son tempérament, à sa conception du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Il y a eu une volonté d'écraser tout ce qui n'était pas lui ou qui ne procédait pas de lui. Et on le paye aujourd'hui.
Il y a quand même la question du talent propre des opposants. Sans doute.
Ouais. Je veux bien vous l'accorder, mais après, pour ce qui concerne le Parti socialiste, il n'est pas totalement, stupide de penser qu'après une défaite comme celle que nous avons vécue, on ait besoin un de savoir en tirer les conséquences et deux que les Français, pareil, c'est normal que les Français ne se tournent pas spontanément vers ceux qui ont échoué, parce que c'est la vérité, on a été sanctionnés et sanctionnés durement, donc ça veut dire que nous avons échoué sur au moins une partie de la mission qui nous avait été confiée, et c'est normal qu'ils ne se tournent pas spontanément vers nous. Mais je constate que les oppositions de droite sont à peu près le nouveau monde a eu la volonté d'écraser tout ce qui l'a précédé, niant même le fait que quelque chose d'une certaine façon l'ait précédé, et je crois qu'on le paye aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus d'outils. On est dans une société de confrontation, inscrite historiquement dans cette culture de la défiance à l'égard de celles et ceux qui sont en responsabilité au moment T. Et on n'a plus les outils, finalement, de création de la concorde, avec en plus un président, c'est ce que disait Nicolas à l'instant, qui est clivant. Et moi, je trouve qu'Emmanuel Macron serait bien inspiré, dès lors qu'on aura une perspective durable de sortie de crise, surtout de ne pas être tenté de décider seul des nouvelles orientations qui vont être données, mais au contraire de revivifier notre démocratie politique, notre démocratie sociale, et surtout pas de fixer lui-même le calendrier, la méthode et les conclusions des discussions, comme il l'a fait d'ailleurs avec le grand débat national. Il faut faire un vrai grand débat national en s'appuyant sur les corps intermédiaires, un vrai grand débat national. Mais non, mais je vous parle pas de, je vous parle pas de meeting de mise en scène. Je vous parle véritablement d'associer secteur par secteur les forces vives de ce pays pour qu'on essaye de tracer des perspectives de long terme qui dépasseront d'ailleurs la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Frédéric Dabi, un mot quand même sur ces trois ans. Au bout de trois ans, qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement différent par rapport à ses prédécesseurs? Quelle est la marque, selon vous, d'Emmanuel Macron sur ces trois ans?
Moi, je verrais trois choses. Le socle, ça a été dit par Nicolas Corrado, c'est vrai que c'est assez frappant de voir que ça tient du côté de son socle électoral de la présidentielle de 2017, ça tient du côté des personnes âgées, il est majoritaire dans les catégories supérieures. Deuxièmement, c'est cette image d'un président extrêmement clivant, encore plus que ne l'était à une époque Nicolas Sarkozy, c'est le sentiment qu'il a une popularité de classe. Troisièmement, c'est ce que disait Judith Weintraub, c'est ce côté absent d'alternative. On n'est plus dans le contexte de bipolarisation où quand un président de gauche était en difficulté, ça crée une envie de droite. Emmanuel Macron bénéficie de positions éparpillées, éclatées, dominées quand même par Marine Le Pen, mais dans notre enquête JDD de la semaine dernière, il y avait quand même une majorité de Français qui considéraient qu'elle ferait moins bien qu'Emmanuel Macron si elle était au pouvoir en ce moment.
Merci à tous les quatre, merci aux auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Bercoff que vous allez retrouver, André Bercoff dans tous ses états, et on se retrouve demain en direct pour d'autres infos, d'autres débats. À demain et très bonne journée sur Sud Radio.